C'est pas la vie la plus facile, mais c'est la plus belle vie que tu puisses vivre, puisque tu vis vraiment pour toi. L'art, c'est vraiment... Tu t'exprimes tout le temps, tu travailles tout le temps sur toi. C'est un continuel échange que tu as d'abord avec ta propre personne. Et ça, je trouve que c'est magnifique.
Bonjour à tous et bienvenue sur L'Essentiel, le podcast qui vous invite à redécouvrir ce qui est essentiel pour vous et qui vous inspire l'envie de vous réaliser. Je m'appelle Yeba Olaye et j'ai fondé Yeba, une marque de maroquinerie essentielle. Ce podcast, c'est ma façon de continuer mon histoire avec vous, de continuer à vous inspirer, vous insuffler la confiance et l'envie d'être vous-même. À travers chaque interview, nous irons à la rencontre de personnalités inspirantes et singulières, des femmes du monde, d'ici et d'ailleurs, qui ont osé suivre leur voie, qui ont osé se lancer dans une aventure incroyable pour réaliser leurs rêves. Nous parlerons de leurs débuts, des choix audacieux qu'elles ont posés, des chemins qu'elles se sont frayés et de ces petites choses, routines et croyances qui les font avancer. Nous essaierons d'apprendre d'elles et surtout d'oser grâce à elles. Finalement, l'essentiel n'est-il pas de... Et si on y répondait aujourd'hui ? Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur l'essentiel. En tout cas, j'ai en face de moi une jeune femme d'une douceur, d'une beauté incroyable. Ravie que tu aies accepté mon invitation, Shaïma. Bienvenue à toi sur l'essentiel.
Merci beaucoup, bonjour. Merci pour ces mots doux.
Toujours sur l'essentiel. Mais dis-moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Bien sûr.
Version longue, courte, c'est toi qui décides.
Du coup, je m'appelle Shaïma, je suis d'origine marocaine, je suis née à Bruxelles et toujours vécue à Bruxelles. Et depuis peu, on va dire 2 ans, je vis dans la région du Limbourg. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que j'avais besoin de distance, de retrouver un peu une créativité ou un autre niveau de créativité que je n'avais pas forcément atteint ici à Bruxelles. Et donc voilà, c'est pour cette raison que j'habite à Hasselt maintenant. Je suis chanteuse et je suis également directrice artistique. Et j'adore en fait l'art en général. Donc voilà.
Pour tous ceux qui nous écoutent, comment est-ce que j'en suis venue à t'inviter ? C'est parce qu'on a fait connaissance, on s'est rencontrés pour la première fois à un mariage.
Ouais.
C'était le mariage d'Andrea Veca, qui est la styliste de la marque. Et en fait, on était à la même table. J'étais avec mon chéri, tu étais avec le tien. Et on a eu vraiment un coup de cœur parce qu'on trouvait qu'il y avait vraiment de belles énergies entre nous. Et lui est artiste également. Et il m'a dit, elle est artiste, c'est mon producteur.
C'est, il a dit que c'était, que j'étais sa directrice artistique et que je m'occupais de tout.
Oui, il a dit, non, il a été très loin, il a dit.
Ah oui, je suis même pas courant.
Il a dit, du point de vue de ma carrière, elle est extrêmement complémentaire à moi et elle est, en plus de m'aider dans la direction artistique, parce qu'elle est très douée pour ça, elle m'aide dans la production également. Et grâce à elle, j'arrive à m'exprimer et j'arrive à avoir de l'impact. Et je me suis dit, en te voyant, ce petit bout de femme à l'autre bout de la table, parce que toi et moi, on était un peu loin, donc on n'a pas réussi à avoir une vraie conversation. J'ai un peu farfouillé sur les réseaux et j'ai réalisé que tu faisais énormément de choses, que tu étais à la fois aussi habitée et créative que lui, mais en même temps, on sent qu'il y a une véritable vision. Et c'est pour ça que j'avais hâte de parler à quelqu'un qui a les deux cerveaux, qui semble cohabiter avec beaucoup d'aisance et d'harmonie. Mais raconte-nous tout. Comment est-ce que tu en es arrivée à travailler dans ce monde-là ? D'où est-ce que ça vient ? Est-ce que c'est depuis l'enfance ? Enfin, dis-nous tout.
D'accord. Alors, c'est une grande aventure qu'est ma vie, je dirais. Quand on me pose généralement cette question, j'ai un peu du mal à y voir clair parce que je suis passée par tellement de choses différentes, mais je vais essayer d'être la plus précise. En fait, quand j'étais jeune, on va dire que quand j'avais 4-5 ans, ma maman m'a inscrite dans une école d'art tout en étant dans une école normale, donc en parallèle. Je suivais des cours artistiques. Je vais rentrer dans les détails par rapport à ça, et des cours normaux qui étaient l'école. Dans ces cours artistiques, j'ai fait connaissance, pour la première fois avec la musique à travers de la danse et à travers le solfège aussi. Donc c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment faire des cours de claquettes, par exemple. Oui, je suis passée par là.
Choupi, j'imagine, oui, à 4-5 ans.
Mais je détestais ça, c'est ça qui était horrible, c'est que je détestais ça. Mais finalement, maintenant, aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante de l'avoir fait puisque ça m'a apporté beaucoup de rythmique et très intéressante et aussi de... je sais pas, mobilité au niveau du corps, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant d'avoir fait cette expérience-là. J'ai bien évidemment commencé à danser aussi dans le jazz. J'ai fait du jazz, j'ai fait du hip-hop, du contemporain. Enfin, vraiment, j'ai fait vraiment un panel de types de danse, ce qui, je pense, m'a énormément nourrie quand j'étais jeune. Et donc, je pense qu'il a développé inconsciemment, parce que c'est important de le dire, qui a développé une connaissance rythmique, on va dire, beaucoup plus aiguisée, on va dire, beaucoup plus différente, puisque j'ai essayé différentes danses, oui. Différents types de genres.
D'accord.
Par la suite, donc, comme je l'ai dit, j'ai aussi appris le solfège, donc j'ai appris à jouer du piano, un peu de guitare. Et donc tout ça, voilà, ça m'a formée en tant que jeune petite artiste, mais c'était vraiment de la passion.
Ça n'était
absolument pas. Oui, donc là, c'était de mes 4 ans à mes 16 ans, on va dire.
Et pourquoi ta maman a insisté pour t'offrir ce parcours et ce chemin artistique à côté? Est-ce qu'elle est artiste?
Alors, c'est très spécial puisque je sais qu'elle a toujours aimé le côté artistique et la vie d'artiste, ça je le sais, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de discuter de cela avec elle puisque je l'ai perdue à mes 15 ans. Donc c'est pour ça que je suis très reconnaissante et en fait je me sens encore à l'heure d'aujourd'hui liée à elle à travers l'art. Pour moi c'est une force de motivation, une force... C'est une force d'inspiration aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours liée à elle, et pas parce qu'elle était artiste elle-même, mais parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert cette partie de moi. Évidemment, quand j'ai grandi, donc voilà, j'ai connu un petit peu, j'ai fait connaissance de la musique, etc., à travers la danse, et pour moi, la danse, c'était mon premier amour, et c'était vraiment... je voulais faire carrière dans la danse. Malheureusement, j'ai
classique
eu...
Classique ou moderne?
Je voulais faire plutôt de la danse hip-hop. Oui. Enfin, vraiment rester dans le hip-hop. J'aimais beaucoup aussi le contemporain. Le classique, évidemment, c'était très intéressant comme danse. Mais c'est vrai que je n'avais pas vraiment une idée principale. Je sais que je rêvais beaucoup avec les films Step Up, etc.
Oh là là.
Ouais, Step In et tout. Je connais toutes les chorés par cœur, je peux te le dire.
Ah non, mais ça
c'est
donne...
incroyable.
C'est incroyable.
Je mettais le film et j'étais là 5, 6, 7 et je faisais exactement
le même. Mais moi, pareil, ça donnait
même.
Rien, mais...
C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mais voilà, j'y croyais. Et ce qui était très intéressant à cette période-là, c'est que ma maman, malgré ce que je faisais n'importe quoi, elle était toujours très présente et très... Elle apportait toujours son soutien dans tout. Et donc, ça m'a apporté beaucoup de confiance.
Elle a été un véritable pilier, en fait,
dans
ce cheminement
c'est quelqu'un
le monde artistique.
Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui a toujours été présente et qui est toujours présente, d'ailleurs, à travers différentes choses. Et puis, par la suite, en fait, j'ai eu un accident et j'ai dû arrêter.
À 16 ans ?
Oui.
Donc, tu perds ta maman, tu as un accident qui te force à arrêter.
Oui.
Comment on vit ça ? C'était un accident de quel style ?
C'était un grave accident quand même. J'ai monté à cheval et mon cheval est tombé. Enfin, il est tombé sur moi.
Ouais.
Et j'ai cru que j'allais plus marcher puisque je ne sentais plus mes jambes.
Mmh. Mon Dieu.
Finalement, c'était juste un choc. J'ai quand même fait de la rééducation. J'avais une attelle. J'étais pendant une semaine ou deux chaise roulante. Enfin, c'était vraiment beaucoup de difficultés, on va dire, mentales. Mais je n'ai jamais vraiment abandonné. J'ai su, au moment où le docteur m'a dit que je devais arrêter la danse, j'ai su que je devais abandonner cette option-là.
Cette forme-là.
Cette forme-là
d'expression
d'art.
Exactement. Artistique. Oui.
Ouais. Mais que je pouvais faire autre chose. Et je ne savais pas à ce moment-là quoi. Et évidemment, quand ma maman est décédée, ça a été très spécial parce que je... j'avais l'impression de ne plus vivre dans le même monde. Je ne sais pas si ça a du sens, mais j'avais l'impression que le monde tombait. Mais en même temps, je me souviens n'avoir pas... En fait, j'ai su, la nuit où elle est décédée, j'ai su dans mon rêve. J'ai eu un rêve assez spécial et j'ai su qu'elle était décédée. Donc le matin, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui était parti. C'est que lorsque ma tante me l'a dit qu'effectivement, ça a été un très gros choc. J'ai refusé de le croire. Et puis finalement, quand on a dû visiter le corps, effectivement, c'est quelque chose qui a été... c'était un fait. Donc, c'était une preuve que... Voilà,
c'est un accident aussi. Le sens où... je veux savoir si tu étais préparée ou pas.
Alors,
on n'est jamais préparé.
On n'est jamais préparé. J'étais très jeune. Je me construisais encore parce que 14-15 ans, c'est vraiment une jeune femme, enfin une jeune fille, c'est vraiment la période où on se découvre. Et je n'étais absolument pas préparée dans le sens où je ne réalisais peut-être pas forcément la gravité de la situation. Alors, effectivement, on n'a pas eu d'accident. Elle a eu un cancer. Un cancer qui s'est généralisé par la suite. Donc, il y a eu quand même plusieurs niveaux, plusieurs étapes de douleur et plusieurs étapes de possible guérison. Et puis, on repart sur des douleurs. Donc, j'aurais pu me construire ou me forger une carapace ou peut-être j'aurais pu me dire écoute, elle va partir. J'aurais pu me préparer et on a essayé de me préparer. Je me souviens que les docteurs m'en ont parlé et ont essayé de me faire comprendre que la situation était quand même grave et qu'il fallait que je me prépare. Mais je refusais de l'entendre parce que je n'imaginais pas vivre ma vie sans elle. Donc effectivement, pour moi, il n'y avait que de l'espoir. Il n'y avait pas de l'abandon. Et quand elle est décédée, je l'ai pris très mal parce que je pensais qu'elle m'avait abandonnée. Et donc, j'étais très en colère. Mais je ne le montrais pas forcément aux autres, mais j'étais très en colère. Et puis, au final, la vie a fait que j'ai dû prendre des responsabilités, m'occuper de ma sœur, m'occuper de mon frère parce que j'ai une sœur et un frère. Qui sont tous les deux, qui étaient tous les deux très très jeunes. Et donc tout ça fait que ça m'a fait grandir plus vite que les autres, dans le sens qu'on apprend de la vie, mais aussi ça m'a fait grandir plus vite que les autres, dans le sens où je n'avais plus le temps de m'amuser. Je n'avais pas le temps ou pas l'espace d'être une enfant. Et il fallait trouver rapidement une solution et arrêter de rêver et d'essayer d'être réaliste dans ses choix.
Rester réaliste, mais en même temps, aujourd'hui, tu n'as pas changé de chemin. Elle t'a offert les deux possibilités, un cursus normal
oui.
Ou t'exprimer à travers une voix beaucoup plus artistique. Tu as quand même choisi ce chemin-là, qui n'est pas celui de la facilité.
Mmh.
Comment est-ce que tu es arrivée avec toutes les responsabilités qui pesaient sur toi et ce chagrin qui certainement était en toi? Comment as-tu réussi à transformer ça en lumière et à avancer?
Alors ça peut paraître cliché, mais c'était un petit peu ma thérapie. C'était aussi mon seul moyen de quitter cette tristesse et de m'exprimer... Et de parler, en fait, à ma maman.
Et tu lui parlais comment? C'était à travers
en chantant.
la chanson. Oui. Alors, oui.
En chantant, je chantais pour moi. Parce que peu avant, en fait, peu avant qu'elle décède, j'ai commencé un petit peu à chanter, etc. Et donc, elle était très intéressée. Et elle me disait, mais enfin, t'as quand même une voix. Peut-être qu'il faudrait faire quelque chose avec ça. Merci. Peut-être qu'il faudrait faire quelque chose avec ça et tout ça. Et donc, c'était ma première fan. Et aussi, celle qui m'a fait penser que c'était possible d'emprunter ce chemin. Et donc, quand elle est décédée, moi, j'ai continué un peu dans ce chemin, mais comme c'était lié à elle, pour moi, c'était un échappatoire de mon quotidien, de ma douleur, et un espace d'expression de tout type d'émotions que je n'arrivais pas à exprimer dans le quotidien. J'ai juste continué, j'ai voulu faire des études parce que voilà, je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre quand même. Je pense que, voilà.
On a senti au tout début.
Ouais, il faut avoir les pieds sur terre parce que voilà, malheureusement, il n'y a pas que le talent qui compte aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres aspects, que ce soit financier ou même connaître les bonnes personnes, bon timing. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, mais je suis quelqu'un aussi qui rêve réaliste. Réalistiquement.
Non. De manière réaliste.
De manière réaliste. Pardon, je mélange l'anglais et le français. On va bien arriver.
C'est OK, ils ont l'habitude avec moi. T'inquiète pas. C'est pas nouveau. Oui. Mais, et donc, quelles études ? Donc, alors, là, tu as 16 ans, tu peux plus danser, tu t'accroches à la musique, mais tu chantes. Mm. 17-18 ans, tu choisis les études. Quelles études ?
Oui. Cinéma, photographie.
Oh !
Ouais. Alors, c'est spécial, je sais. Je me forçais à faire des études parce que finalement, si vraiment on me demande à mon inner child qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, ben, la réponse est très facile, c'est chanteuse. Ça n'a jamais changé. C'est juste que mon papa était strict au niveau des études et je le remercie d'ailleurs pour ça parce que sans lui, je n'aurais pas pu faire d'autre chose. Mais juste pour lui faire plaisir, je suis partie faire des études et donc je me suis dit, bon, cinéma, photo, pourquoi pas, ça reste quand même de l'art. Mmh. Et c'est quand même des études, ça peut me mener quelque part.
Honnêtement, moi, on m'a laissé le choix de faire un truc un peu divers et donc j'ai fini ingénieur de gestion. Donc quand tu me dis, oui, il fallait que je fasse des études et j'ai fait photo, cinéma, ouais. Pour moi, c'est waouh.
Je sais, mais Allez, il a fallu que je convainque mon papa.
Oui, c'est vrai.
Parce que c'était pas facile, oui. mais j'ai réussi, donc j'ai fait et j'ai excellé dans ces études-là, puisque j'ai fini première de classe à la fin d'année, wow. J'ai eu un prix, etc.
Et tu avais découvert ton style ? Tu avais un style particulier ? Qu'est-ce qui fait que tu te démarquais particulièrement des autres et qu'on t'a primé, en fait ?
Très honnêtement, je pense que parce que j'ai vécu des choses qui sont d'un âge adulte, dur, j'avais une sensibilité à montrer ce grain-là à l'image. On avait un libre choix de thème et j'ai décidé d'aller dans une maison de repos et de faire un documentaire sur ces personnes-là. Et j'ai décidé de leur poser des questions sur base en fait, d'une simple conversation comme on a aujourd'hui. J'ai découvert en fait, leur vie passée. Par exemple, j'ai parlé longuement avec une ancienne mannequin. Et j'ai fait des inserts de sa peau, par exemple, l'état de ses mains. Enfin, tout ce qui était lié, en fait, à une beauté que l'on a aujourd'hui. On se dit, ah, cette personne est belle parce qu'elle a une belle peau, cette personne est belle parce qu'elle est belle, ou son corps, voilà. Et donc, j'avais envie de vraiment de donner ce contraste entre une beauté du passé, et en fait sa beauté qui est toujours là, mais qui est aujourd'hui et qui a ses marques de vécu. Donc je trouvais ça très intéressant, et je pense que c'est ça qui m'a aidée. Encore aujourd'hui, il montre mon travail. Voilà. Donc c'est...
Tu m'enverras un lien, comme avec ça je plaisir. Peux partager.
Avec plaisir.
Et on pourra tous le découvrir.
Oui, en fait, avec grand plaisir. Et par la suite, comme j'étais partie sur des études à photo-cinéma, il y a un moment où, voilà, il m'est arrivé que je n'y crois plus à la musique. Je n'y crois plus parce que pour moi, ce n'était qu'un rêve finalement.
Qu'est-ce qui peut t'amener à ne plus croire en la musique ?
La réalité. Il faut savoir qu'en parallèle de tout ça, j'étais toujours dans le deuil. Donc, on n'a jamais fini le deuil, ça c'est sûr, mais on n'a jamais fini de passer à travers un deuil. Mais à ce moment-là, je n'avais pas pris conscience de ce que je ressentais réellement. Et en fait, quand j'ai fini mes études de cinéma photo, c'est là où j'ai réellement commencé à sentir et à accepter mes émotions. Et c'est là aussi où c'est devenu très compliqué et où c'est là où c'est devenu très noir. C'est là où c'est devenu dans le déni.
Beaucoup de colère.
Beaucoup
encore.
De colère, mais surtout beaucoup de tristesse. Différente, se sentir différente, ne plus savoir, ne se rendre compte qu'en fait on va plus jamais appeler quelqu'un maman. C'est spécial, mais c'est quelque chose qui est quand même assez fort pour une enfant. Et donc beaucoup de choses. J'étais vraiment dans une situation mentale qui n'était pas forcément favorable à rêver, disons. Et j'avais un peu perdu. Confiance en moi et confiance en moi, que ce soit physiquement, mentalement, moralement. C'était vraiment juste, j'allais vraiment deep down, j'étais vraiment down, j'étais vraiment dans un gouffre.
D'où est arrivée la lumière ? Qu'est-ce qui a fait ? Parce qu'aujourd'hui, tu es
très
chanteuse, mais comment la passerelle s'est-elle faite vers un chemin plus lumineux ? À quel moment ?
C'est une excellente question. Je ne me suis jamais posé cette question. Je pense que c'est quand j'ai vraiment pris le temps de me regarder dans le miroir, mais émotionnellement. C'est le moment où j'ai accepté ce que je ressentais et que j'arrêtais de m'auto-flageller et de me dire que voilà, que c'était normal finalement, que je ne suis pas la seule qui a perdu sa maman et qu'il y a d'autres personnes qui ont tellement d'autres problèmes et beaucoup plus difficiles. Et puis chacun a son côté négatif dans la vie et qu'en fait, ça doit me rendre plus forte et qu'en fait, ma maman n'est jamais vraiment partie. C'est plus son physique qui est parti, mais elle est toujours là. Et c'est quand j'ai compris réellement ça, j'ai commencé à me relever et j'ai vraiment commencé à me dire « Ok, je commence à respirer, mais vraiment respirer honnêtement avec moi-même sans me cacher dans ces émotions un peu finalement blurry parce que... Oui. Il y a des émotions qu'on ne comprend pas. Moi, il y a des jours, des émotions, je ne comprends pas ce que je ressens. Non. Et
parfois,
là,
tout se mélange.
Mais c'est ça. C'est overwhelming.
Oui, c'est overwhelming. Tu n'arrives pas. Toutes les couleurs sont mélangées.
C'est ça.
Et ça t'étouffe pratiquement et tu ne sais pas comment les appréhender.
Exactement.
Et effectivement, les mots que tu prononces, je pense que ça libère beaucoup de gens aujourd'hui. C'est vrai qu'à travers ce que tu as vécu, qui est très dur, je pense que même au quotidien, et souvent les entrepreneurs, on a des journées où tout se mélange, où rien ne semble aller, où on a envie de renoncer et il semble ne pas y avoir de solution. Parfois, ça semble être un rêve qui se transforme en prison. On n'a pas de solution ni d'issue, mais comme tu le dis, parfois il suffit juste de faire une pause, d'être honnête avec soi-même, de faire le tri de pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on ne veut plus, et un pas après l'autre, on commence à aller dans la bonne direction.
Ouais. Exactement. Et je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'il n'y a pas eu un événement ou une personne en dehors de moi qui a été la lumière dans ce trou noir, mais je pense que c'est moi qui ai été, qui m'ai auto-illuminée. parce que finalement, dans cette vie, on est seul. Et il ne faut pas trop compter... Je ne veux pas être négative parce que ce n'est pas négatif, c'est juste un fact. Mais je pense que dans ce genre de situation, par exemple, prenons un exemple d'une personne qui doute beaucoup, qui n'est pas à l'aise avec elle-même ou qui qui est aussi un peu overwhelmed par ses émotions, etc. Je pense qu'il n'y a personne en dehors d'elle, ou de lui, de cette personne en tout cas, qui peut l'aider. Je pense que ça vient de nous-mêmes. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais dans cette position-là, il y avait énormément de personnes qui me donnaient des mots d'attention, qui me coachaient, qui essayaient vraiment de me relever, en fait. Mais ça rentrait par une oreille et ça ressortait de l'autre. Alors que je savais très bien qu'ils avaient raison, mais il a fallu quand même que je me parle à moi-même. Et c'est quelque chose que je n'avais pas fait pendant très longtemps. Je n'avais pas compris qu'il fallait se parler à soi-même, qu'il fallait s'auto-coacher, qu'il fallait se tirer du gouffre toute seule, en fait, ou tout seul. Je pense que c'est très important de pouvoir être doux et douce avec soi-même. Mais il faut parfois être très fort et très strict aussi, dans le sens où, quand il y a ce genre de situation où on est au plus bas, et que n'importe quelle personne peut t'aider, mais qu'elle n'y arrive pas parce que tu ne veux pas ou tu n'acceptes pas l'aide, finalement, parce que c'est une acceptation. Enfin, tu acceptes que quelqu'un t'aide, mais si ton mental ne suit pas, ça va être compliqué. Et donc, je pense que c'est là où il faut être strict et être un petit peu écoute, maintenant, tu te lèves, quoi. Parce que si tu ne te lèves pas, ben, en fait, on a perdu. En fait, si tu ne te lèves pas, qu'est-ce que tu fais encore à vivre dans cette vie ? Et en fait, j'ai réalisé aussi que j'avais la chance de pouvoir vivre encore et de pouvoir ouvrir mes yeux sur cette vie, alors que ma maman n'avait pas cette chance-là. Et donc, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour elle. Et c'est quelque chose qui a été constamment une motivation dans les autres parties et les autres chapitres de ma vie. Mais c'est vraiment à ce moment-là où j'ai décidé que je n'allais plus me sentir de cette manière-là ou me sentir tellement négative et tellement dans une spirale négative. Ouais, c'est vraiment... Ouais.
Et quelles ont été les premières actions, les premières décisions, les premiers pas vers la lumière ?
Les premiers pas vers la lumière, ça a été de penser à moi. Je sais que c'est spécial, mais pendant longtemps, donc de mes 17 ans à mes... 23 ans, je pense, je me suis occupée... 24 en fait. 23. je me suis occupée de ma sœur et mon frère continuellement. J'avais un peu ce rôle de maman et donc je les mettais toujours en avant.
Vous avez quel âge à ce moment-là quand...
quand ma maman est décédée...
Non, quand tu avais 24 ans.
Ah, quand j'avais 24 ans.
Quand ta maman est décédée.
Quand ma maman est décédée, ma sœur avait 7 ans et mon frère avait 4 ans.
Ah oui, c'était
petit. Très très jeune, ouais. Et comme j'étais la plus grande, on va dire, preuve féminine de la maison, j'imagine, voilà, effectivement, c'est... Mais bon. Et donc, j'ai juste décidé de m'occuper de moi-même et de penser à moi. Et de, en fait, de couper un petit peu le cordon ombilical que j'avais avec ma sœur et mon frère et que j'avais extrêmement du mal à couper pendant très longtemps. Et j'ai juste décidé de me focus sur moi et donc de me focus aussi sur tout ce que j'avais envie de faire. Donc ça a été le premier pas. Et comment ? J'ai quitté le foyer familial et donc j'ai pris un appartement. Pendant ce temps-là, je faisais encore d'autres études parce que j'ai terminé le photocinéma et puis j'ai continué parce que je me cherchais encore professionnellement. Donc j'ai continué vers de la communication et du marketing que j'ai terminé aussi.
On a bien compris que tu ne lâches rien.
Je ne lâche rien. Il ne faut pas lâcher dans la vie.
Jamais.
Non, à part si on le sent.
Si on le sent. Ouais. Mais si c'est quelque chose qu'on s'est fixé et qui est important,
ouais.
Il n'y a pas d'excuse, il faut y aller.
Voilà. Parce qu'on abandonne, on s'abandonne soi. Si on abandonne, on s'abandonne soi.
Et quelle triste vie qu'une vie pleine de regrets.
Exactement. Ouais.
Donc, tu termines ces études-là.
Et donc, je termine ces études-là. Et...
De communication marketing, ouais. Et la musique. Quand est-ce qu'elle arrive, cette musique ?
La musique, elle a toujours été là.
Oui, mais de manière professionnelle.
Ah, alors là. Donc, la musique, voilà, je le faisais pour le fun.
Oui.
J'avais toujours envie de devenir professionnelle dedans, mais je ne savais pas comment commencer, où, avec qui, avec quoi. Donc, je suivais un petit peu. J'ai eu la chance d'avoir aussi des colocataires qui étaient aussi très artistiques. Donc, on a pu développer un peu nourrir plutôt notre esprit artistique. Donc, c'était très intéressant. Et puis, j'ai rencontré Daniel.
Ah, le fameux Daniel.
Le fameux Daniel, qui est mon copain aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous faire un topo de Daniel et puis nous dire ce que ça a permis?
Daniel est quelqu'un...
C'est un diamant brut. Hein.
C'est incroyable.
Je l'ai rencontré et mon mari, qui est un esprit très cartésien, un ingénieur, un pur de dur, honnêtement, quand il a commencé à parler avec Daniel, il m'a dit, on dirait un sage. C'est un jeune homme qui est passé par beaucoup de choses et qui a l'air de se poser toujours les bonnes questions et qui porte un regard très curieux sur le monde.
Oui.
Et qui donne l'impression que tout est possible.
Exactement.
Oui.
Exactement. C'est vraiment ça.
Donc, vous rencontrez. Comment? Parce qu'il y a des filles, on a envie un peu de...
Bon, alors, let's spill the tea.
Please, let's make it fun.
Non, mais en fait, ça s'est fait aussi... C'est magique parce qu'on s'est rencontrés pas... directement, en fait, c'est très spécial. Donc, j'étais modèle... Ah oui, parce que j'ai oublié ça. J'ai fait aussi du modeling quand je faisais mes études en communication marketing. J'ai fait aussi modeling des petits jobs par-ci, par-là. Et en fait, une de mes meilleures amies, qui s'appelle Raya, qui était sa photographe à ce moment-là, qui, lui, était déjà artiste reconnu dans le côté flamand et aussi en Hollande, enfin, aux Pays-Bas. Et en fait, elle m'appelle, elle me dit « Écoute, Shaima, j'ai besoin absolument de quelqu'un qui... d'une modèle. Et tu conviens parfaitement au physique de ce qu'on cherche. Donc vraiment, est-ce que ça te dérange pas que je vienne, je te prenne 3-4 photos et voilà. » Je fais « Écoute, viens et ça me permettra de te voir. » Donc elle vient, on prend les photos. Je n'avais pas de me poser trop de questions parce que je ne savais même pas exactement pourquoi les photos... Pour quelles raisons on prenait ces photos. Mais voilà, j'ai vraiment suivi un petit peu sans me poser de questions. Et en plus, je lui fais confiance. Donc voilà. Et puis, 3 mois plus tard, je suis identifiée sur Instagram sur une photo. Et c'est ces fameuses photos de mon amie Raya. Et c'est qui m'identifie? C'est Daniel. Donc je regarde un petit peu. Et puis là, je deviens curieuse, évidemment. Donc je regarde un petit peu ce qu'il fait. Et je me dis, ah oui, quand même, il est quand même assez grand. Enfin, je veux dire, il est quand même assez connu de ce côté-là. Je ne savais pas. Mais sans plus.
Mais très jeune, il m'a expliqué qu'il faisait déjà des scènes colossales. Quoi.
Oui, c'est... à 15 ans.
15 ans,
ouais.
Oui.
15 ans, il a fait Puckle Pop, ouais, déjà. Oui, ouais, c'est impressionnant. C'est ça aussi qui m'a... Bah, je ne vais pas passer les étapes, d'ailleurs je continue. et donc voilà, c'est là où ça a été le premier regard, on va dire. Mais il n'y avait pas d'attraction ou autre, c'était vraiment de la pure curiosité. Puis sans plus, je continue ma vie. 2 mois plus tard, on a une autre amie en commun, qui s'appelle Tonia, qui avait ouvert son pop-up. Et il était invité, et j'étais invitée. Et Raya vient chez moi, elle me dit « Mais... viens, je vais te faire rencontrer Daniel, c'est la personne pour qui tu as fait les photos. » Je suis « Ah bah super, vas-y, moi je suis super chaud, hyper sociable. » J'y vais, je lui dis bonjour, on parle un petit peu. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe, pas du tout d'attraction, mais plutôt une connexion hyper intéressante parce que c'est là où il me dit qu'il a perdu sa maman, donc lui aussi a perdu sa maman, pour les mêmes raisons que moi. Et on arrive à se comprendre sur un niveau que on arrive,
de gens.
Voilà, que beaucoup de gens n'arrivent pas finalement. Et donc c'est là où c'était très intéressant parce qu'en plus il fait de la musique, etc. Donc voilà. Et en fait voilà, on discute, on se rajoute sur Instagram, mais on n'a jamais discuté sur Instagram. Donc ça reste très réel. Ça n'est jamais passé par les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui est aussi une force, surtout à l'heure actuelle, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion finalement de parler avec lui parce qu'on n'en a pas parlé. On a juste parlé en réalité. Puis vient la fermeture de ce pop-up et ça faisait des jours que je postposais le fait de revenir au shop parce que je devais déposer un pull. Et il a fallu que le jour où je revienne, il soit là, Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été excitée de le voir.
Tiens donc, non, non plus, on ne sait pas pourquoi.
Tiens, tiens, c'est trop bizarre.
Non, mais,
pas nous,
mais c'est fou parce que... Mais vraiment parce que c'était en aucun cas une attraction, et je le dis bien parce que c'est important, c'était une attraction plutôt d'esprit, je pense, vraiment. Oui, c'était oui. Un intérêt... Non, vraiment, vraiment.
Okay, d'accord.
Ouais, vraiment.
D'ailleurs pas pour lui, parce que je te vois...
On se... Non, mais on se l'est déjà dit, très honnêtement. Et
Il te ment.
Il me ment. Et donc voilà, et voilà, on a commencé à parler. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais juste on a commencé à parler pendant 2 heures, non-stop, en oubliant complètement que les filles étaient là aussi, qu'elles voulaient placer un mot. Et en fait, c'était fou parce que tout est devenu...
Il n'y avait plus que vous deux.
Il n'y avait plus que nous deux. Et je n'y croyais pas. En fait, je n'ai jamais cru à ça, jusqu'à ce que ça m'arrive. Vraiment, je n'entendais que lui, je ne voyais que lui, et il m'a dit exactement la même chose par rapport à moi. Et c'est ça où ça m'a fait vraiment bizarre, parce que je me suis dit, mais attends, c'est quand même dingue. En plus, on a continué à parler de choses, mais des détails de vie, des choses ultra intéressantes, super... c'était des conversations deep, c'était pas des conversations vides. Mmh. Y avait toujours une valeur ajoutée. Il y avait toujours un message, et c'est ça qui m'a vraiment... oui, c'était très intéressant. Et puis depuis ce jour-là,
qui
on ne s'est jamais quitté.
Hein. Et ça fait combien de temps?
Ça fait 4 ans et 4 mois, quelque chose oui. Comme ça.
Et je peux te confirmer, enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'on était en mariage, mais quand il parle de toi, il a encore des étoiles dans les yeux. Et moi, ce qui m'a vraiment donné envie de te recontacter, c'est le fait qu'il soit convaincu, lui qui semble avoir été très loin dans le processus créatif de construction, de déconstruction, de se définir en termes d'identité. Il a été très... Enfin, la manière dont il l'a dit m'a interpellée. Il m'a dit, j'ai rarement rencontré quelqu'un comme elle parce qu'elle... elle arrive à connecter les idées, elle arrive à comprendre et lire à travers les gens. Et elle est devenue mes yeux, elle sait s'exprimer quand moi, je n'arrive pas à sortir les choses de mon cœur. Et quand il m'a dit ces mots-là, je me suis dit, en plus d'être une artiste, ça doit être une femme vraiment intéressante qui va nous apprendre énormément sur ce que c'est que ce cheminement d'arriver à s'exprimer en tant qu'artiste, mais aussi en tant que porteur de projet, entrepreneur, ou quel que soit le projet ou le rêve qu'on nourrit, comment est-ce qu'on arrive à s'exprimer pour que les gens comprennent ce qu'on a dans le cœur. Voilà. Donc dis-moi, comment est-ce que tu en es arrivé à finalement collaborer avec lui et prendre en charge sa direction artistique?
Alors... C'est vraiment trop mignon ce qu'il a dit. Je suis encore... D'accord.
Mais tu peux lui faire écouter.
En fait, il n'y avait pas forcément de... C'est juste qu'on s'était dit, bah, viens, on va essayer d'aller en studio et on va essayer de faire une musique. Moi, je suis allée avec lui. Et en fait, il m'a mise dans une... vraiment contre un mur, le dos contre un mur. Alors pourquoi ? Parce que j'avais du mal à trouver mes mots et à exprimer, à réécrire. C'était vraiment très compliqué pour moi.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Je n'arrivais pas... Déjà, je suis très... j'étais, parce que plus maintenant, mais j'étais extrêmement compliquée. Tout devait être parfait. Tout devait être parfait.
Ça me parle, ça.
Tout, ouais. Mais qu'est-ce qu'est la perfection,
j'en
en fait ?
J'en sais rien.
C'est absolument ridicule.
Oui, je sais.
La perfection, c'est subjectif.
Oui, mais je pense que c'est une forme de protection, tu vois,
ouais.
Du regard des autres.
Oui, c'est clairement ça. Et puis, c'est de la peur. C'est...
Oui, c'est aussi ouais. Surtout de la peur, oui. Mais de ne pas être à la hauteur, non.
Oui,
ouais.
Oui,
en ce qui me concerne, c'est oui, la perfection
oui.
Cache ça.
La perfection, c'est très... C'est un peu un boulet, ça te tire vers le bas quand tu es dans... Parce que la création, la créativité, l'art, c'est jamais parfait. Quand tu le vois, c'est pur.
Oui.
Il n'y a pas de... Je vais modeler un petit peu le côté gauche pour que ça soit la même chose que le côté... Non, parce que c'est ça qui fait beau.
Oui.
Et qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce que nous sommes aussi les humains ? On est des êtres quand même imparfaits. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui ne vont pas, et pourtant on fonctionne assez bien. Donc c'est ça où je me dis, bon, ne nous enfermons pas dans cette perfection qui est inexistante. C'est clairement un piège.
Ou inintéressante aussi.
Oui.
Et inintéressante. La poursuite de cette perfection t'éloigne de toi-même, je pense.
Exactement. Ouais. Et donc, je suis allée... j'avais un peu du mal à écrire parce que, voilà, j'étais trop perfectionniste. J'avais envie de trouver les bons mots, très poétiques. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, vraiment, quand j'y réfléchis, je me dis, mais enfin, écris d'abord et puis on va... Voilà, et puis on va développer la chose, mais ne commence pas à développer la chose avant que quoi que ce soit développé.
Mais
c'est
oui.
Un petit peu... mais bon, donc voilà, j'étais un petit peu enfermée là-dedans. Et en fait, il m'a sauvée parce qu'il m'a dit, on ne sort pas de ce studio tant que tu n'as pas écrit cette musique. Et j'étais là.
Vous êtes restée enfermée combien de temps?
Mais c'est ça le pire, c'est qu'en fait, pas très longtemps.
C'est pas vrai.
Avec la pression, j'ai paniqué. J'ai demandé au producteur de sortir, je me souviens. J'avais besoin d'être seule et de lui dire que on se connaît pas et qu'il m'a mise dans une situation, qu'il me met dans une situation un peu inconfortable. Et c'est là où il m'a dit, oui, mais c'est là où tu grandis le mieux. Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu vas écrire cette musique. Je te laisse le temps qu'il te faut. Et on va enregistrer ce son et puis on va sortir et tu seras très heureuse de l'avoir fait.
Et tu étais très heureuse.
J'étais très heureuse de l'avoir fait. Et c'est notre son qui est déjà en ligne et qui a le... Enfin, tu veux quoi, c'est le son. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle.
Très chouette son d'ailleurs. Je vais le partager dans les notes de l'épisode.
Merci beaucoup. Ouais, donc voilà, c'est ça.
Et je continue ma question. C'est il t'a réconcilié avec non, c'est pas qu'il t'a réconcilié, mais il t'a donné en fait les clés pour maintenant rentrer dans ce monde de la musique professionnellement. Et mais quand même, j'ai l'impression que ça t'éclate de l'aider lui à gérer sa direction artistique et que cet aspect-là, c'est un aspect que tu découvres de toi aussi.
Effectivement, bien vu, bien vu. Alors j'ai énormément de... Je me sens tellement heureuse de faire partie de ce projet et de aussi m'occuper de cette création artistique, enfin de sa direction, parce que tout simplement, je découvre beaucoup de choses sur moi.
Comme quoi ?
Comme... la gestion de mes idées, ce qui peut être réaliste ou pas, et comment et si elles ne le sont pas, de les rendre réalistes, de les modeler, mais en ne touchant pas l'aspect, voilà, en ne touchant pas la création en elle-même, parce que du coup, ce serait de la perfection. C'est un peu le...
Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de comment tu fais? Tu as un carnet dans lequel tu écris toutes tes idées et puis tu t'assois pour faire le tri et puis...
Alors, pas du tout. J'aimerais bien, mais pas du tout.
Parce que moi, je suis convaincue...
C'est très spécial.
On a 10 000 idées et qu'on les laisse filer et qu'on n'arrive pas à les capturer. Pas à les capturer, mais à les saisir. Ouais. À les regarder, à se dire, OK, qu'est-ce que je peux en faire ? Et à vraiment passer à l'action.
Alors moi, je suis convaincue que nos idées ne sont pas les nôtres. Je pense que les idées sont dans l'air et qu'elles viennent à toi et que c'est à toi de l'attraper et d'agir là-dessus ou de la laisser.
Oui, tu as lu Big Magic.
Ah, oui. Non, mais vraiment, oui. C'est incroyable.
Oui, et donc, je suis convaincue de la même
chose. Quand j'ai lu ce livre, j'étais en mode, OK, je suis convaincue de la même chose.
Tous les créatifs doivent lire ce livre.
Mais c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Et donc, pour moi, bien sûr, tu as beaucoup d'idées, tes propres idées à toi, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de les écrire, mais ne les laisse pas que sur le papier alors. Essaye d'en faire quelque chose ou d'agir d'une certaine manière. Trier les idées, c'est pas forcément faire des choix de « on va faire cette idée et pas celle-là », mais plutôt comment est-ce qu'on peut prendre cette idée, enfin, je sais pas moi un exemple... je veux faire des pots et je veux faire des verres. Comment est-ce que je peux faire des pots et des verres dans, sous une seule marque ? Eh bien, on va essayer de lier les deux via une création artistique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un modèle qui va être release cette date-là, ce mois-là, et puis plus tard, on fait déjà ce plan de « ok, et dans un an, par exemple, on va release ce pot-là ». C'est important de ne jamais abandonner ses idées au total, enfin dans la totalité. Et je pense que moi, je n'ai pas forcément de carnet. J'ai des rêves très spéciaux et il m'arrive de décrire mes rêves.
Spéciaux dans quel sens hein?
Parfois, j'ai l'impression que j'ai pas dormi, mais que j'ai vécu une autre vie. Alors, c'est très spécial. Mais des fois, je me réveille le matin, je suis épuisée, comme si
t'avais pas dormi,
comme si je n'avais pas dormi, et comme
et
si mon esprit,
oui, t'avais vécu une aventure.
Voilà, c'est ça. Et quand je me souviens de mes rêves, chose que je me souviens tout le temps de mes rêves. C'est assez spécial parce que parfois, j'ai des rêves presque prémonitoires, dans le sens où j'ai ma meilleure amie qui a eu son bébé. Je savais déjà 7 mois avant que son bébé allait être un garçon parce que je l'avais dans ses bras. Et quand j'ai rencontré son fils, j'avais exactement la même position, la même image. Je vivais la même chose. Et donc, je pense qu'on peut tous atteindre ça.
J'en ai la chair de poule.
Mais c'est vraiment... Parfois, Dany, il me dit « Bon, tu rêverais pas qu'on ait, je sais pas moi, qu'on soit,
sur un yacht.
Soit super riche ou sur un yacht, comme ça, hein, on peut se retrouver là. » C'est vrai que c'est drôle, moi j'adorerais. Mais c'est des choses qui m'arrivent depuis très peu. J'avais pas ça toute ma vie. J'ai juste depuis peut-être 2 ans, le fait d'être super en phase avec moi-même, je suis plus apte, on va dire, à aller dans ce level de rêve, je pense. Je ne sais pas. Après, c'est très... voilà, on y croit, on n'y croit pas. Mais en tout cas, moi, je sais que j'y crois parce que je l'ai vécu.
Oui, mais moi, j'y crois profondément que... Pour être connecté à soi-même, j'ai une invitée qui nous parlait de son higher self, du fait qu'elle sentait que le côté spirituel, c'était important de le développer pour pouvoir se connaître pleinement.
Exactement.
Et entièrement, et pour pouvoir recevoir les messages et aller dans la bonne direction.
Mmh.
Donc elle nous expliquait que quand elle avait un doute, elle demandait à son higher self et ce n'est qu'à travers elle qu'elle ressentait ce qu'il fallait faire et les décisions qu'il fallait prendre. Donc, je pense que même tous les entrepreneurs qui vont très loin, quand tu commences à décortiquer leurs histoires, tu te rends compte que ce développement personnel, cette ouverture à la spiritualité, mais spiritualité dans le sens où on est connecté à quelque chose de plus grand que soi pour recevoir plus grand que soi, c'est nécessaire.
Effectivement.
C'est même une des étapes clés qui fait qu'on passe d'une vie normale à une vie qui pourrait être exceptionnelle.
Oui. Et qu'on peut rendre ses rêves réels.
Oui.
Je pense que c'est réellement pourquoi de nombreuses personnes aussi ont réussi. Parce que aussi, bon, déjà, ils y croient à fond. Je pense que la croyance en soi est très, très importante et primordiale. Et puis, je pense que le fait d'être lié à 100% à soi-même et d'être aware à 100% de tout ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose qui va aider et propulser à peut-être un autre niveau de vie. Maintenant, voilà, comme je le dis, certaines personnes y croient, certaines personnes n'y croient pas. Moi, j'y crois personnellement parce que voilà, je l'ai vécu mes idées, je les ai. C'est pas que je les. En fait, je suis très inspirée, moi, de tout. Je suis quelqu'un qui, depuis toujours, j'ai été très observatrice. J'observe beaucoup. J'adore inventer des histoires sur les gens. Donc, par exemple, pas en mode négatif, mais dans le sens où j'adore inventer...
J'adore bitcher.
Je suis vraiment une grosse bitch. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, absolument pas ce que je voulais dire.
Les filles le sont un peu, mais bon,
c'est pas wrong. It came out so wrong. Je vais le refaire.
This one I'm okay,
quand je l'ai dit, je me suis dit, oh non, oh qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, c'est absolument pas ce
mais
que
non,
je voulais dire.
On est content de découvrir cette facette de toi.
Non, absolument.
J'ai plein de copines qui vont t'accueillir dans le groupe.
Ah oui, oh, super. Non, absolument pas. C'est plutôt le contraire d'ailleurs, mais j'ai. Oui, on va sortir de ce cercle un petit peu awkward. Mon Dieu. Donc, je
c'est
voulais
pas
dire,
grave, c'est
j'adore.
Bon, j'arrête.
Mon Dieu.
Donc, tu adores raconter les histoires sur les
gens. Non, j'adore inventer. J'adore imaginer, voilà. J'adore imaginer leur vie, à quoi elle ressemble. Donc, par exemple, je vais dans le tram et ça a été fort mon échappatoire. Ça a été fort mon échappatoire quand je traversais toute cette phase un peu négative et basse. C'est que je m'imaginais dans d'autres vies, je sais pas. Et donc en fait, tout en observant les gens dans le tram ou marcher ou... Et en fait, je suis très sensible à ça. Je ne sais pas si je suis oversensible par rapport à la majorité de personnes, mais je sais que c'est quelque chose qui m'inspire énormément dans la vie de tous les jours. Et je sais que la nature, moi j'ai besoin de nature, j'ai besoin de me connecter à la nature. Je sais que c'est un peu, it sounds a bit cliché, mais vraiment c'est une force que personne au monde peut me donner à part la nature. Me balader dans le parc ou dans la forêt pendant 30 minutes, c'est assez et je repars super
recharge, ouais.
Vraiment j'ai énormément d'énergie après ça et je n'ai pas un carnet d'idées. J'ai essayé d'écrire toutes mes idées dans un carnet, etc., mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que je pense que, si je sais, je pense que, enfin j'ai une théorie, je pense que c'est parce que je réfléchis trop à ce que j'écris. Et donc je perds l'idée en elle-même. C'est, oui, ça ne fonctionne pas avec moi. Donc ce que je fais, c'est que vraiment j'observe et si j'ai une idée, j'essaye d'agir directement sur l'idée. C'est pour ça que j'en fais... J'ai tellement de projets dans ma vie, j'ai tellement de... Oh mon Dieu. Mais au moins, je n'ai pas le regret de n'avoir pas essayé.
Oui.
Et ça, pour moi, c'est tellement important. C'est trop important de... J'ai essayé et j'ai envie de me rendre heureuse. Et me rendre heureuse, c'est vraiment d'agir sur ce qui me fait sentir utile. Je ne sais même pas si c'est le bon mot, mais d'avoir essayé tout ce que je pouvais. Et n'avoir pas de regrets. Donc, c'est vraiment ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un projet clair pour ta carrière? Est-ce qu'il y a un endroit où tu veux aller en particulier? Où tu es en train de construire les choses avec un certain lâcher-prise et de manière organique, selon les opportunités qui viennent? Parce que tu dis, j'ai plein de projets. Et effectivement, quand on regarde sur les réseaux, tu fais pas mal de collaborations avec des très grands noms.
Oui.
On te voit dans des sets qui font rêver. On te voit aussi dans une vie très simple où tu crées, où tu vis avec ton homme. Donc vraiment, on sent que les choses se construisent au fil de l'eau. Est-ce que derrière, il y a une stratégie, il y a un plan, il y a une volonté d'aller chercher quelque chose de particulier?
Alors, la stratégie, est-ce que j'ai une stratégie précise? Non, parce que j'ai peur de la déception.
Mmh. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu veux réaliser?
J'ai envie de vivre de la musique. Et je sais que j'ai envie de... En fait, ma vie, j'ai envie que je passe ma vie à faire des shows et à imaginer et à échanger échanger mon énergie avec le public et donner autant d'amour que je peux, en fait, que je donne déjà à toutes les personnes qui m'entourent et à travers la musique, et surtout aider les gens qui passent par le même chemin ou qui peuvent se retrouver dans ma vie, dans la même histoire que moi, ou une histoire similaire, mais de pouvoir les aider. Parce que moi, la musique, quand j'étais pas bien, la musique m'a sauvée réellement. Et donc, pour moi, c'est intéressant de pouvoir donner ce safe space à des personnes qui seraient mes potentiels publics, mais vraiment de vivre de la musique. Vraiment, ce serait mon ultime rêve. Et bien sûr, de développer après des branches qui sont liées à la musique, mais c'est vraiment ça mon rêve. Après, je sais que, encore une fois, j'ai cette réalité qui vient ici. Je sais que ici, par exemple, en Belgique, si on veut vivre de la musique, il faut être une Angèle, un Stromae, un Damso. Voilà, il faut vraiment aller en dehors de la Belgique. Il faut vraiment développer vraiment tout son art internationalement. Je n'ai malheureusement pas encore l'équipe pour faire ça. Je sais que j'en suis capable. Ça, j'en en doute absolument pas. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore le moment et que pour l'instant, j'avance organiquement. Et donc, j'avance, je relise des sons de manière consistante. En tout cas, c'est mon plan. Et en parallèle, de développer des bookings, que ce soit des petits cafés ou plutôt des salles de concert. Ça, ce serait vraiment l'idéal.
En termes de musique, est-ce que tu as trouvé ton style ? Ou est-ce que tu explores encore ? Je pense que tous vous explorez, parce que quand on voit Beyoncé, elle va dans tous les répertoires. Oui.
Mais en fait, c'est compliqué.
Mais toi, particulièrement, personnellement, est-ce que tu touches déjà du bout des doigts ton identité vocale et ton style personnel ?
Mon identité visuelle, oui. Mon identité de qui je suis, oui. Mon identité musicale, je suis quelqu'un qui n'aime pas se mettre dans des cases de genre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai l'impression qu'on limite alors dans ce cas-là notre créativité. Dans mon EP, mon dernier EP, j'ai vraiment développé une ligne conductrice à travers mes 5 sons, mais c'est tous des genres différents. Mais on peut quand même reconnaître que c'est ma musique puisqu'il y a toujours ces éléments qui reviennent à chaque fois et puis ma voix.
Qui sont ?
Alors, c'est les inspirations espagnoles, donc un petit peu les claps, les respirations. C'est quelque chose qui vient souvent dans ma musique. Et puis juste mon timbre de voix, je pense qu'il y a l'utilisation de ma voix. C'est vraiment les harmonies, la manière de rajouter des layers. Je trouve que c'est quelque chose qu'on a retrouvé à chaque fois dans chaque son. Même si c'est différent, bien différent, mais je trouve que, en tout cas, c'est aussi un feedback qui m'a été revenu. C'est que beaucoup de ces éléments reviennent à chaque fois.
Magnifique. Enfin, là, on est à 1 heure d'enregistrement. Donc, je vais poser une question qui me tient à cœur. Et ensuite, on va faire un petit quickie, 5 questions rapides.
Okay ? Génial, j'adore.
Donc, cette question qui me tient à cœur, à ton avis, qu'est-ce qu'elle dirait la petite fille, la toi de 5 ans, si elle avait l'opportunité de te voir aujourd'hui ?
Je lui dirais que...
Non, qu'est-ce qu'elle dirait de toi ?
Un elle ? Waouh !
Elle serait fière ?
Ouais. Je pense qu'elle me dirait... T'es incroyable, tu y es arrivé. Tu vois, je t'avais dit, tu vas y arriver. Voilà, ouais, sûr.
Et toi, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Que tout est possible, qu'il faut pas qu'elle lâche et que ouais, faut jamais qu'elle abandonne. Même si c'est difficile, même si elle est seule, elle est assez forte pour aller là où elle doit aller. Donc tous les chemins mèneront là où je suis.
Génial. Et On va partir sur le quickie, mais en général, mes invités développent. Donc, si tu sens le cœur de développer, pas de stress. Parce que j'ai bien compris que je ne vous aurai pas à la rapidité.
On va essayer. Je vais essayer de changer la donne. Je te promets
rien. Forcément, mais si t'es inspirée, n'hésite pas. Alors, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Qui t'entraîne à rien.
Et le pire conseil ?
Arrête de rêver.
Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui doutent ou qui ont l'impression qu'ils ne sont pas à leur place ou que c'est impossible ? C'est quoi le truc qui fait que ça se débloque ?
Essaye. Essaye et tu verras si c'est pour toi ou pas. Mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais.
C'est vrai. Un créateur, c'est... Ou un artiste. Pour toi, on va dire un artiste, c'est...
Un artiste, c'est un hypersensible et un super... Un hypersensible est quelqu'un qui a développé une intelligence que pas beaucoup ont.
Une intelligence... Je te demande de développer, parce que là...
Une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale aussi, je dirais, mais sur le monde. Une intelligence, je dirais plus une intelligence émotionnelle parce que il ou elle, l'artiste en lui-même, va arriver à mettre des mots là-dessus. Pas forcément avec des mots, avec des lettres, mais une forme d'expression qui est incroyable. Je trouve que ce soit... Allez, qui aurait cru que dans une peinture, juste avec des couleurs, on puisse comprendre un message ? Je trouve que c'est quand même extrêmement intelligent. Je trouve que c'est une intelligence... C'est une intelligence que l'on a tous et toutes. Je ne dis pas que ce sont des... Hein. Je suis sûre et certaine que tout le monde est un artiste ou une artiste, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y en a qui arrivent à le faire plus facilement et qui ont développé facilement cette intelligence qui est de faire de l'art. Voilà.
C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, tu dis tout le monde l'a, mais moi qui... Tu vois, j'ai quitté un monde très rationnel, la finance, la stratégie, le marketing, pour lancer cette marque. Et je me rends compte que être créatif, c'est quand même du développement personnel, parce que tu n'arrives à rien pondre d'intéressant tant que tu n'as pas compris qui tu es, tant que tu n'as pas fait ce chemin d'enlever toutes les layers, comme on dit en français.
Les couches.
Toutes les couches. Et livrer quelque chose de vraiment authentique, quelque chose de vraiment sensible, de vrai, de pur, et accepter de t'ouvrir et d'être vulnérable. Ouais. Je pense que pour moi, ça a été un très, très long chemin. Et honnêtement...
Alors, on n'a jamais dit que ce serait facile. Et je pense que ce n'est pas la vie la plus facile, mais c'est la plus belle vie que tu puisses vivre, puisque tu vis vraiment pour toi. L'art, c'est vraiment... Tu t'exprimes tout le temps. Tu travailles tout le temps sur toi. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vraiment... c'est un continuel échange que tu as d'abord avec ta propre personne. Et ça, je trouve que c'est magnifique.
Oui. J'ai lu une phrase qui m'a vraiment... qui a été un déclic pour moi. C'était que... La fin de la créativité et de l'art s'arrête au moment où on fait les choses intentionnellement pour les autres. Il faut les faire pour soi-même.
Exactement.
Et les autres se reconnaîtront à travers nous, parce qu'on est tous, on vit tous plus ou moins les mêmes choses. Et si on arrive à amener notre vérité propre au monde, les autres la reconnaîtront.
Ouais.
Et c'est ça qui fait que ça résonne, et pas l'inverse, parce que c'est fabriqué pour être apprécié. Et ça, c'est moi, ça m'a beaucoup aidée à me dire, mais en fait, il faut d'abord que ça me touche, moi, et ensuite, on verra.
Tout part de nous. C'est on vrai. Est la source.
Tout c'est vrai. Je vais attendre cette vilaine moto.
C'est pas une moto, c'est une valise.
C'est quoi ?
Une valise.
Oui, on est au studio et on est tout près de la rue et ça résonne. Donc
une vilaine moto. On est en train de mourir, la moto.
C'est pour ça que j'ai dit vilaine.
C'était pas mal, j'aime beaucoup.
Voilà, voilà. Et donc, la dernière, tu vois, c'est parti dans une digression. Voilà. Mais ça, c'était ma faute.
Oui, parce que j'ai, oui. J'ai tenu.
Non,
j'ai
c'est étonnant, tu es la plus disciplinée.
Merci.
Donc, pour toi, Chaïma, l'essentiel, au regard de tout ce que tu as vécu jusque-là et de ton expérience, l'essentiel est de...
L'essentiel est de vivre. L'essentiel est de ne jamais lâcher. Et l'essentiel est d'essayer.
Tu nous en laisses trois.
Désolée. Mais je ne sais pas quoi choisir. Ça dépend les mindsets. J'en offre plusieurs.
Prenez celui que vous voulez.
Non, mais je dirais que l'essentiel, c'est de vivre. Parce que final, ça reprend essayer. Et ouais, vivre. Juste vie, en fait. N'oublions pas de vivre. Ne nous enfermons pas dans cette routine, dans ce cadre. Ça serait tellement triste.
Oui. Tu viens de nous offrir un moment suspendu. Un très, très beau moment. Merci de t'être montré aussi vrai. Merci d'avoir toujours essayé de nous laisser ressentir qui tu es vraiment. C'est un épisode très précieux. Je tenais à te le dire.
Merci à toi, vraiment. Merci aussi d'être... d'être si ouverte et si patiente et curieuse. Et merci pour ces belles questions.
Merci. Avec grand plaisir. Mais dis-moi, qu'est-ce que toi, tu as appris de toi-même à travers tout ça? Est-ce que tu en as vécu
de mon
des
parcours?
Choses? Oui, de ton parcours. Qu'est-ce que toi, tu ignorais de toi et que tu sais désormais que tu possèdes ou que tu es?
Je suis quelqu'un de très forte. Et très patiente. Et aussi, je dirais que j'ai... j'ai un amour à donner illimité. Je compte pas forcément. Et ça peut être un point négatif, mais je ne le vois pas comme ça. Je refuse de le voir comme ça, puisque l'amour... c'est positif. Mais je pense que le fait de donner autant d'amour, ça me rend heureuse. Et donc j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris par rapport à tout ce que j'ai vécu. C'est que quand bien même on m'a fait du mal ou voilà, par d'autres situations ou expériences, j'ai toujours répondu avec de l'amour. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est l'ultime réponse à la haine, puisque...
Encore un point commun entre toi et moi.
Ouais.
Voilà, mais c'était un plaisir. Je vais arrêter là parce que je peux continuer
toute la nuit.
Et encore.
C'est parti.
Mais merci infiniment pour ce bel épisode. On te souhaite tout le meilleur.
Merci beaucoup.
On te souhaite de continuer à être aussi magnétique et que toutes ces personnes découvrent ton art, qu'ils vibrent avec toi. Et merci d'être la personne que tu es.
Merci voilà. Beaucoup, merci pour ton écoute.
It's a wrap.
It's a wrap. Yeah. Merci.
C'était un bel épisode. Waouh, hein. Wow. Quel cadeau.
C'est vrai, un truc. Ouais.
Alors, le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait tellement à grandir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, laissez-moi un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine. À bientôt.